Viens me projeter le texte, s'il te plaît. Voilà. C'est petit, hein. Ouais. Je vais vous le lire. De toute façon, je vous le lis. Donc, Jean chapitre 4, verset 3 à 10. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, et là se trouvait la source ou le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Je retiens surtout cette petite phrase, « Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. » Dans cette lecture, nous voyons que les frontières, puisqu'il est quand même question ici de frontières, vous vous souvenez, entre la Judée et la Galilée, il y a la Samarie, et on ne passe pas volontiers de la Judée à la Galilée en passant par la Samarie. Ça demande un effort. On n'est pas sur son territoire, on n'est pas dans son pays, dans sa région, c'est difficile. Et puis, quand on lit ça en plus, ça montre l'ampleur de la difficulté. Ils ne veulent rien avoir de commun. Terrible, ça. Donc, on voit que les frontières ne sont pas seulement des barrières. Ici, quand on parle de frontières, on parle de barrières douanières, hein, de la douane. Mais la frontière, ça nous parle aussi d'une façon beaucoup plus large de tout ce qui nous parle de limites, bien sûr de limites géographiques qui sont matérialisées d'une façon ou d'une autre, mais il existe d'autres frontières, parfois indiscernables au premier regard. Les frontières qui séparent les individus entre eux, des barrières, des limites posées et qui sépare des personnes entre elles. Et puis, c'est en parlant parfois, en essayant de parler avec ces personnes qu'on découvre, que nous découvrons ce qui sépare, ainsi que les difficultés qui existent quand il s'agit d'entrer en communication. Ça peut être la barrière de la langue, on le comprend, mais aussi des raisons moins évidentes. Et on voit au travers de cette lecture, et du Seigneur Jésus en particulièrement, que nous pouvons être amenés ou être conduits à dépasser, à aller au-delà de ce qui sépare, de ce qui tient éloigné. Et c'est là, inévitablement, entrer dans un combat, dans un effort pour dépasser le mur. Car il s'agit bien d'un mur qui sépare. Et vous vous souvenez, je n'ai pas noté ce texte, mais vous vous en souvenez dans l'Épître aux Éphésiens, où il est écrit quand même que Jésus est venu et qu'il a renversé le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, entre des individus, bien entendu. Alors, on sait que de pouvoir délimiter, pouvoir connaître des limites, ça compte aussi dans la vie. Ça nous aide à nous situer. Nous avons des limites dans plus d'un domaine, vous et moi. On le sait, nous ne sommes pas Dieu. La nature elle-même nous apprend qu'il y a des limites, des territoires, des climats différents, des différences, et que nous avons à prendre en compte ces différences. On ne peut pas, en faire abstraction, on ne peut pas ne pas en tenir compte, on ne peut pas dire ça n'a pas d'importance. On se rend compte parfois que la vie serait plus facile si nous arrivions à dépasser certaines limites, mais que ces limites, elles sont importantes aussi pour nous, pour notre formation, pour notre apprentissage, pour nous rendre compte que tout ne se fait pas tout seul, pour apprendre que tout ne se fait pas tout seul ici-bas et que nous n'avons pas toujours à attendre des autres ce que nous ne sommes pas prêts à faire. Alors, nous prenons conscience que pour aller plus loin que ce qui fait notre environnement familier, connu, habituel, il nous faut une bonne raison. Pas vrai ? Il nous faut parfois une raison forte, une raison qu'on ne cherchera même pas à discuter, une raison qui s'impose, telle une évidence, voire même parfois, ça peut arriver, une cause imparable qui nous propulse là où nous n'aurions pas projeté d'aller. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je n'entre pas dans les détails. Mais il y a des endroits ou des circonstances ou des situations que j'aurais préféré ne pas connaître. Mais j'y ai été amené. Je veux dire, c'était indépendant de ma volonté, quelque part. Et je ne dis pas que Dieu n'y est pour rien. Parce que de tout cela, il faut apprendre aussi. Alors, je voudrais encore ajouter que pour cela, nous avons aussi besoin de nous préparer, besoin d'être au clair sur ce qui nous est nécessaire pour pouvoir aller sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Comme nous le disions la semaine passée, on ne devient pas étranger d'un cœur léger, avec facilité. C'est ce que Jésus nous montre, en l'occurrence. Nous n'allons pas à la rencontre de l'autre dans ce qui fait de cette personne une toute autre personne que nous sans certaines dispositions intérieures, d'où la nécessité d'en avoir bien conscience pour nous y préparer. Et ces dispositions intérieures, elles ont pour nom l'humilité. On l'a chanté tout à l'heure, hein, je n'ai rien à prouver, l'humilité, ça compte. La modestie, l'indulgence, sommes-nous toujours indulgents, enfin, le respect, la patience, la prévenance. En effet, le contraire de toutes ces vertus ou qualités, l'orgueil, la vanité, l'intolérance, le mépris, l'impatience, l'indifférence, sont des attitudes qui ne demande pas d'effort. Vous êtes d'accord avec moi, on l'a déjà dit, je pense, mais alors, l'orgueil, alors franchement, on n'a pas besoin d'aller à l'école spécialement pour devenir orgueilleux. Hein. Il n'y a pas d'école spéciale pour devenir indifférent non plus. Je ne sais pas, ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire, bah, tiens, comme c'est facile en fin de compte. Ouais, c'est vrai, ça ne demande pas d'effort. Puis, malgré toute notre bonne volonté, malgré les efforts que nous désirons faire, il faut bien admettre que nous ne réussirons jamais à tout comprendre et à parfaitement rejoindre l'autre. Bien sûr, redisons-le, il faut au moins une bonne raison pour entrer dans une telle démarche. Il nous faut une raison qui surpasse toute raison contraire. C'est ce que nous avions souligné pour évoquer l'entrée de Jésus en Samarie. Il fallait, il importait, il était de son devoir. Autrement dit, cela primait sur tout le reste dans le cœur du Seigneur. Et c'est cela qui l'a conduit à entrer en Samarie, sur cette terre étrangère, pour rencontrer des personnes avec lesquelles, de tradition, d'histoire, il n'y avait aucune relation. En dehors de l'amour, dites-moi, quelles pourraient être les bonnes motivations en dehors de l'amour, qui pourraient conduire des gens à entrer en présence, à communiquer entre elles, à apprendre à se connaître. Dites-moi, en dehors de l'amour, y a-t-il de vraies et bonnes raisons? Je ne crois pas. Il y en a des raisons, bien sûr. Plein de gens sont amenés à rencontrer d'autres personnes sans pour autant les aimer. Il y a des intérêts. C'est comme ça, il y a des intérêts. Mais quel genre d'intérêt? L'histoire est remplie d'exemples de mises en présence qui ont eu des conséquences dramatiques. Nous pouvons tous en citer. Il suffit de nous souvenir, excusez l'exemple extrême, mais il suffit de se souvenir des guerres. Ah mais les gens ont été mis en présence, hein. Ils ont passé des frontières. Ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ben voilà. Hein. Et puis, les informations fourmillent d'exemples. Les guerres, les purges. Hein. Le mot m'échappe, mais le fait de tuer. Les génocides, voilà, c'est ça. Les génocides. Mais les conflits de toutes sortes, et moins dramatiques que. Voilà, on peut penser aux fugues, des gens qui fuient la relation, qui fuient, par exemple, des divorces aussi. Les raisons qui faisaient que les gens étaient l'un près de l'autre ne se sont pas, n'ont pas pris leur plein sens. Et au bout d'un moment, les gens se séparent, s'éloignent. Sans parler des souffrances qu'endurent des personnes en présence d'autres personnes, sur le lieu de travail, dans les familles, j'ose pas dire dans les églises, mais ça peut aussi exister. Alors moi je me suis dit, il vaudrait mieux rester à distance, rester chez soi, que de vouloir, bien sûr, que de vouloir s'imposer, que de vouloir que tout le monde nous ressemble et de vouloir uniformiser, parce que les causes des difficultés, des souffrances, pas des difficultés, mais des souffrances, elles résident dans ces dispositions-là. Mais je dirais aussi, il vaut mieux, il est plus souhaitable de vouloir s'approcher pour donner quoi ? Cet amour. Pour lui donner à cet amour de l'espace, de la respiration, du champ, et de construire ainsi, même de façon minime et pour un temps limité, une relation paisible. C'est vrai. Parfois on se dit « Oh, je ferais mieux de rester chez moi. » Mais on ne se dit pas « Il vaudrait mieux, il est préférable que j'aille pour donner ce que le Seigneur nous a donné. » Ça change quand même. Je sais pas, ça change. C'est un effort. C'est une question de persévérance, une question de fidélité à Dieu et d'amour du prochain. Pas simplement le prochain qui nous aime. Mais je comprends comme c'est difficile. Alors ça m'a amené à me dire, en fin de compte, il faut éviter de se mettre en route vers l'autre sans prendre avec soi les bons bagages. C'est ce que m'inspire ce texte aussi. Parce que Jésus n'est pas venu les mains vides, encore moins le cœur vide. Il avait avec lui les bons bagages. Il est allé bien sûr en Samarie, en terre étrangère. Mais là, il a posé un pont qui a permis à une femme de Samarie de franchir une distance qui la séparait des gens de son village. Jésus est venu et a mis en elle une parole qui l'a amené à se rendre vers ses voisins, à se rendre vers ceux qu'il avait connus, qu'il a connaissait, pardon. Mais elle est allée vers eux avec d'autres paroles, avec un autre message, avec amour, elle est allée vers eux. Cet amour qui, tout d'un coup, était né dans son cœur envers le Seigneur. Et c'est ça qu'elle va partager. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et elle ne le lui reproche pas. Ce n'est pas un reproche qu'elle fait envers Jésus. Elle est reconnaissante qu'enfin, quelqu'un ait pu lui dire, mais par amour, bien sûr, tout ce qu'elle avait fait. Et pour elle, ça a été libérateur. Oui, donc il ne faut pas se mettre en route, et pensons-y, pour notre vie, à chacun, ne pas se mettre en route sans prendre avec nous les bons bagages. Je pense, Jésus est allé en Samarie, mais vous savez que si les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, il n'en était pas de même pour Jésus, la preuve. Mais pas seulement, il y a un autre passage dans l'Évangile où Jésus va donner une parabole. Et dans cette parabole, qui s'appelle la parabole du bon Samaritain, quand même, Jésus s'adresse aux gens de son peuple pour leur dire qu'il imagine un bon Samaritain. Si eux ne le croient pas, lui, il le croit. Il y a de bons Samaritains, certainement, cachés dans leur pays, pas libres d'aller où ils veulent, sauf peut-être les malades, parce qu'on a aussi un autre exemple dans l'Évangile d'un homme malade qui était Samaritain. C'était un lépreux qui s'était joint avec d'autres lépreux. Et puis, il rencontre Jésus, et puis Jésus guérit les 10. Oui, merci Mireille. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui revient vers Jésus pour le remercier. C'est le Samaritain. Quel affront vis-à-vis des autres. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce Samaritain aussi de la parabole, vous vous souvenez, bien sûr, du texte. Il est écrit, et c'est Jésus qui imagine cette parabole, il dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était donc en Judée. Autrement dit, ce Samaritain qui passait par là, il était sorti de son trou. Il était sorti de ses frontières. Il avait dépassé les limites. Et il était en Judée, ce Samaritain, en terre étrangère. Et c'est en étranger qu'il va apporter à un blessé du chemin qui n'était pas forcément samaritain, lui, je ne pense pas, enfin c'est pas précisé, mais qui va apporter à ce blessé du chemin, quoi ? Les premiers soins. Autrement dit, ce samaritain, il avait les bons bagages. Il ne s'était pas embarrassé de choses superflues. Enfin, on ne sait pas, bref. Mais en tout cas, il avait quand même ce qu'il fallait, l'huile et le vin, pour porter secours. Lui, le Samaritain. Lui, l'étranger. Ça nous interpelle quand même que Jésus ait mis tant d'insistance pour nous montrer ça. Nous qui sommes juifs, enfin, qui sommes chrétiens, nous qui sommes du peuple de Dieu, nous sommes aussi des étrangers. Mais ce n'est pas parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre que nous devons nous tenir à l'écart et ne pas rejoindre ceux qui nous entourent. C'est ce que je voulais surtout partager ce matin. Je ne vais pas être plus long. Je voulais partager ça parce que, bien sûr, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. C'est que nous allons avoir dans quelques jours l'Expo Bible. L'Expo Bible et puis la série de manifestations qui accompagne cette Expo Bible. Alors bien sûr, ça va se dérouler quelque part en terre étrangère. Si, je vous assure, ça va se passer un peu en terre étrangère. des gens vont être mis en présence qui n'ont pas de relation entre eux, et peut-être nous aussi, si nous réalisons que l'amour que Dieu nous a donné, il est fait pour être partagé, pour être donné, pour bénir, pour encourager. Alors c'est sûr, je ne vous cache pas que cette organisation, elle est loin d'être parfaite et qu'il y a des choses peut-être qui ne nous conviendraient pas, qui ne nous conviennent pas, ou on aurait préféré faire autrement. C'est comme ça. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Et quand Jésus est allé en Samarie, tout n'était pas comme chez lui, comme dans son pays. C'était différent. Les pratiques n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et on peut, mes frères et sœurs, mes amis, nous retrouver au cours de cette semaine avec des personnes dont les pratiques religieuses ne sont pas tout à fait les mêmes. Certaines croyances même peuvent nous différencier, nous éloigner, nous séparer. Mais je me suis dit, voyons, si nous sommes détenteurs du don de Dieu, si nous avons ouvert notre cœur au Christ, comment lui ne nous conduirait-il pas en terre étrangère, si tant est que ce n'est pas nous qui soyons des étrangers pour les autres. Mais sans vouloir exagérer dans mes propos, sans vouloir entrer dans des raisonnements un peu extrêmes, il faut bien reconnaître parfois que s'il y a des limites que nous dépassons, c'est vrai, il y en a d'autres dont nous n'avons pas atteint encore l'extrémité. Les limites de l'amour, nous ne les avons pas atteintes, n'est-ce pas? Nous avons encore du chemin à faire, à parcourir, pour nous rapprocher de cette limite qui est en Jésus-Christ. Sans rien renoncer de ce que nous avons reçu, nous pouvons aussi partager, donner, témoigner, dire ce que nous avons reçu du Seigneur. Et puis, j'aurais vous dire, si même nous ne pouvons pas faire tout ce que nous aimerions ou voudrions faire, ce que nous pouvons, c'est prier. Nous pouvons prier. Faisons-le. D'abord parce que nous ne nous trompons jamais lorsque nous prions. On peut se tromper parfois sur beaucoup de choses, on peut faire des choses et se tromper, mais quand je prie, je ne me trompe pas. Même si ce que je demande à Dieu ne correspond pas tout à fait à ce qu'il faudrait que je demande, mais le Seigneur sait faire le tri. Il ne prend pas notre prière à la lettre, heureusement parfois, mais il sait discerner dans ce que nous demandons nos vrais besoins et les vrais besoins des situations que nous rencontrons. Alors, demandons à Dieu que les bagages qu'il nous a donnés, dont nous sommes dépositaires, dont nous avons été comblés, nous puissions être les mettre à disposition. Partons en voyage, en terre étrangère. J'exagère en disant ça franchement. Si les collègues m'entendaient, ils diraient « Franchement, ce pasteur, ça va pas, hein ?» Mais bon, on est entre nous, hein, ça reste entre nous. Hein. Nous n'avons pas tout de commun avec beaucoup de gens, mais en affirmant notre foi en Jésus-Christ, c'est à lui que nous restons fidèles. Et c'est lui qui honore notre foi. Et pour terminer, je voudrais illustrer la difficulté, le questionnement, parce que, oui, peut-être qu'on s'est interrogé par rapport à cette manifestation, à cette expo Bible, enfin, tout ce qui est, en fait partie. Peut-être qu'on a des craintes, peut-être de l'incertitude. Alors, je me suis souvenu d'un récit que j'avais lu dans un livre que vous avez certainement lu vous-même, le livre de Georges Müller, « L'audace de la foi », de Georges Müller. Vous vous souvenez de Georges Müller, le fondateur des orphelinats en Angleterre au XIXe siècle, hein, à Bristol particulièrement, mais ailleurs aussi. Eh bien, George Müller, un jour, a été invité pour tenir des meetings aux États-Unis, d'Angleterre aux États-Unis. C'était au 19e siècle. Et pas d'avion. Il avait donc pris le bateau, et puis voilà qu'au cours du voyage, aux environs de Terre-Neuve, parce qu'il fallait qu'il passe par le Québec, par Québec, aux environs de Terre-Neuve, un brouillard épouvantable, inquiétant, comme on dit, à couper au couteau, qui a forcé le bateau à ralentir. Ils allaient déjà pas très vite à l'époque, mais encore moins vite. Et puis là, dans ce brouillard, George Müller s'est inquiété parce qu'il était attendu à Québec pour tel jour, pour donner sa première conférence. Alors il va voir le capitaine. Et puis il dit au capitaine, « Je suis venu vous avertir que je dois être à Québec samedi après-midi. » Et on était déjà mercredi. Le capitaine lui dit, « Oh, c'est impossible. Alors là, n'imaginez pas que vous arriverez là-bas. Samedi, c'est impossible avec ce brouillard. » Alors George Müller lui répond, « Mais si votre bateau ne peut pas m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen. Je n'ai jamais manqué à un engagement en 57 ans. » Alors le capitaine lui dit, mais, « Je voudrais bien vous aider, mais je ne vois pas comment je pourrais faire. » Et George Müller lui dit, « Mais venez avec moi, nous allons prier. » « Mais, monsieur Müller, vous avez vu l'intensité de ce brouillard ?» Et George Müller a eu cette réponse mémorable, « Je ne regarde pas au brouillard, mais à Dieu qui contrôle le brouillard, aussi bien que toutes les circonstances de ma vie. » Alors il prie, « Seigneur, si tu veux, enlève ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que je suis attendu samedi prochain à Québec. » Et le capitaine rapportera plus tard qu'en entendant cette prière, il avait l'impression d'avoir un enfant de 10 ans devant lui. Une prière d'un enfant. Ouais. Et puis le capitaine, ému par cette prière, dit à George Müller, ben, « Je vais prier maintenant avec vous. » Et George Müller lui met la main sur l'épaule, puis lui dit, « Oh, c'est pas la peine. D'abord, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Et ensuite, je crois qu'il l'a fait. Alors, vous ouvrez la porte, capitaine, et vous verrez qu'il n'y a plus de brouillard. » Effectivement, toute trace de brouillard avait disparu, et George Müller fut à Québec le samedi suivant. Mais ce sont ces petites phrases qui me donnent un peu des frissons, quoi. Je ne regarde pas au brouillard, mais à Dieu qui contrôle le brouillard aussi bien que les... aussi bien que toutes les circonstances de ma vie. Nous avons des progrès à faire dans la foi, encore, bien sûr. Faisons confiance à Dieu, pour, même si on est dans le brouillard, même si on ne sait pas comment faire, si tout ça, ça va bien être utile, si cette expo, ça... Voilà. Levons les yeux vers Dieu et disons au Seigneur, « C'est pas pour moi. » Ce n'est pas pour mon église, ce n'est pas pour une lubie quelconque, pour une idée égoïste, mais je voudrais que dans cette ville de la Chaux-de-Fonds, d'une façon ou d'une autre, des gens puissent entendre parler de toi. Et comme disait tout à l'heure Marie-Laure, si Dieu a bien fait parler un âne, quand même, il peut bien nous faire parler aussi. Donc, sur ce terrain où j'ai voulu nous conduire ce matin, terrain un peu difficile, un terrain étrange, étranger, remettons au Seigneur toutes choses et avançons avec foi et confiance. J'aimerais prier. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta venue sur cette terre. Nous avons suivi tes pas sur ce chemin qui t'a mené en Samarie. Et ce chemin que tu as suivi nous parle encore et nous parlera encore. Seigneur, nous n'avons pas fini d'apprendre de toi. Nous voulons rester dans l'humilité, dans la modestie, dans la confiance. Nous voulons rester, Seigneur, dans cette sagesse qui vient de toi. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs de ton amour pour pouvoir marcher dans l'empreinte de tes pas. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous par ton bon esprit et par ta parole. Amen. Avant de laisser la place à Raymond qui va s'occuper de la scène, j'aimerais juste vous rappeler concernant cette semaine de l'Expo Bible qu'il y a toujours le petit planning à votre disposition et je vous encourage à vous inscrire sur un point où